88.4.
Et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 6 juin 2025 et il est exactement 13h11. C'est l'heure de l'agenda alternatif sur Radio Galère. Hein, vous nous écoutez évidemment sur le 88.4 FM ou radiogalère.org pour nous écouter partout dans le monde et aussi sur le site internet hein, radiogalère.org. Vous pouvez écouter les podcasts de toutes les dernières émissions. Il y a vraiment plus d'une dizaine d'émissions à écouter comme ça en podcast. Donc n'hésitez pas. Parce que même si on parle d'actualité, il y a toujours des bonnes playlists à écouter dans cette émission parce que tous les vendredis, eh bien, je diffuse les sons du moment, les sons de la semaine, que ce soit en électro, en techno, en rap, en pop, en folk, en rock, voilà, dans tous les styles, la playlist de l'agenda alternatif est là chaque vendredi. Alors aujourd'hui, grosse émission, j'ai pas mal de choses à vous faire écouter, pas mal de choses à vous faire découvrir. On va commencer par une interview qu'on a réalisée la semaine dernière. C'était à l'occasion de Clean My Calanque Festival. Alors souvenez-vous, on avait reçu justement Eric de Clean My Calanque et Clara Bonnet également de Clean My Calanque pour nous parler de ce festival. Il s'est tenu samedi dernier, ça s'est super bien passé, c'était vraiment très très cool, les conférences étaient blindées, il y a eu de super conférences donc avant la soirée, ça c'était en fin d'après-midi, puis on a continué sur le toit terrasse de la friche avec Amalia, une jeune artiste qu'on a reçue ici dans l'émission Amalia. Elle nous a fait un super set, c'était vraiment génial. En plus, elle avait le maillot de foot de l'équipe palestinienne. Et vraiment génial Amalia. Alors, on savait qu'elle avait beaucoup de talent et c'était cool de la voir sur le toit de la friche. Ensuite, Fakir qu'on avait déjà rencontré hein, pour l'Utopia Festival, souvenez-vous. On avait fait une superbe interview. Et ensuite, c'était le Twerkistan qui était là sur le toit de la friche. Et la soirée a continué ensuite au cabaret aléatoire où différents collectifs marseillais se sont réunis donc pour fêter Clean My Calanque. Donc c'était vraiment très très cool et on en a profité pour faire une interview croisée avec Eva. Donc de Eva les petits plats, on l'avait déjà reçue dans l'émission il y a 2 ans je crois. Elle nous avait parlé de son livre qui était sorti à l'époque, parce qu'elle écrit des livres aussi, Eva les petits plats. Mais pas que, elle nous avait beaucoup parlé de musique parce qu'elle aime beaucoup la musique. Et du coup ça avait été une super discussion. Et comme elle était là, samedi dernier, donc pour ce festival Ken Mike Alank, eh bien je me suis dit pourquoi pas faire une interview croisée avec Fakir. Et c'est ce qu'on va écouter tout de suite. Du coup, le micro donc de l'agenda alternatif de Radio Galère s'est baladé dans le festival. Vous allez entendre des petits bruits comme ça du festival et cette interview entre l'interview que j'ai faite de Fakir et il y avait Eva à côté. Également, ça dure une vingtaine de minutes le reportage. Donc je vais vous le diffuser maintenant et on se retrouve juste après ce reportage pour la suite du coup de l'émission. Ensuite, j'ai pas annoncé ensuite. Petite chronique sur Bicep, hein, Bicep, vous le savez, si vous écoutez cette émission depuis longtemps, Bicep, ça fait partie de mes artistes préférés avec Jamie XX, voilà, tous ces artistes-là, mais vraiment Bicep, ça fait depuis qu'ils existent en fait, je les suis. Ils étaient déjà venus à Marseille pour Mars Attack. Ça avait été déjà un super show, et là ils vont nous présenter à Marseille, le projet Chroma. Donc, on va en parler. Ça fait un an que j'en parle du projet Chroma dans cette émission parce que ça a l'air tellement génial de le voir en vrai. Et là, on va avoir la chance de le voir. Ça va se passer aujourd'hui, ce soir, à la Friche Belle de Mai. Et j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc, j'en parlerai dans l'émission après le reportage Clean Mike Alank. Et en deuxième partie d'émission, à partir de 14h, on reçoit Kepler, qu'on a reçu plein de fois ici, Kepler de Caisson Gauche, qui va nous parler de Mars Attack, qui a lieu la semaine prochaine. Il sera en B2B avec la DJ marseillaise Laze, qui est hyper cool et en ce moment elle est en train de cartonner. Donc c'est vraiment bien ce B2B entre Kepler et Laze. Et il va nous parler également des soirées qui auront lieu cet été pour Caisson Gauche. Il nous prépare plein de choses, plein de surprises. On va en parler du coup en deuxième partie d'émission et il nous a préparé également une belle playlist. D'ailleurs la playlist, je ne l'ai pas affichée sur les réseaux sociaux, je l'afficherai cet après-midi. Vous savez, chaque vendredi, on passe plein de sons dans cette émission. Des fois, c'est difficile à tout retenir. Donc, je mets la playlist de chaque émission sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Alors, j'ai encore oublié de le faire sur Facebook, je suis désolée. Mais je vais le faire, je vais m'y remettre parce qu'on me l'a demandé. Il y a des gens qui n'ont pas Instagram, qui nous écoutent et qui n'ont que Facebook. Je le sais parce qu'on m'a fait des petits commentaires en disant « Remets la playlist sur Facebook, je vais le faire. » Parce que c'est vrai que je vous mets vraiment tous les tracks en ordre chronologique de l'émission. Et c'est intéressant, ça peut vous faire votre petite discothèque du coup. Donc on va écouter ce petit reportage, cette petite interview croisée entre Eva Les Petits Plats et l'artiste Fakir. C'était samedi dernier sur le toit de la Friche à l'occasion du Clean Mike Alank Festival. On écoute ça. Premier festival Clean Mike Alank.
Oui.
Comment ça s'est passé pour toi? C'était un super DJ set.
Merci. Écoute, ça s'est hyper bien passé. Moi, je suis trop content d'avoir été invité parce que déjà, la cause me parle à fond. Et en plus, ça me permet de tester plein de nouveaux trucs, plein de nouveaux sons qui sortiront dans le futur album, etc. Et de voir comment les gens réagissent, c'était hyper plaisant. Donc, mission accomplie.
Comment ça s'est passé? C'est eux qui sont venus vers toi et comment t'as accueilli le truc de dire, tiens, je vais jouer pour une association comme Clean Mike Alank?
Et ben ouais, en fait,
tu les connaissais déjà?
En fait, je connaissais pas l'asso du tout et j'avais jamais entendu parler du festival. Et en fait, on s'est rencontrés la dernière fois que j'étais à Marseille, donc à l'Utopia Festival, merci, qui se passait ici à la Friche. Et en fait, j'étais intervenant sur une table ronde sur l'écologie et le, les, comment dire, dans le spectacle vivant. Et une des intervenantes, du coup, c'était une des boss du festival, une des fondatrices du festival, Queen Mike Allen, qui en fait, on s'est trop bien entendu. Et à la fin, elle m'a dit, ah bah, j'ai ce festival, ce serait trop bien qu'on arrive à faire un truc ensemble. Et puis moi, je lui ai dit, bah, vas-y, let's go, faut écrire à mon agent, blablabla, les trucs un peu. Les tuyaux.
Logistique, ouais.
Et en fait, ça s'est fait. Et puis moi, ce genre de cause, tu vois, même quand c'est des festivals plus petits, avec des plus petits budgets, si la cause parle, en fait, on est trop ok de baisser les cachets, de faire des efforts et tout pour fitter avec les valeurs, tu vois. Du coup, voilà.
Et ouais, et en parlant des valeurs, donc on s'est déjà rencontrés justement à Utopia, et tu nous en parlais de ces valeurs-là, et toi, tu essayes que ta tournée le moins d'empreinte carbone possible, tu continues dans cette lignée. Concrètement, ça se passe comment, là, depuis que tu as décidé de...
Bah.
Baisser ton empreinte carbone.
En fait, on essaye. Alors, ça passe par plein de petits canaux, mais en fait, le truc principal qui pollue dans une tournée, disons, ou dans un festival, dans un événement comme ça, spectacle vivant, c'est le déplacement des gens, le déplacement du public. Et du coup, comment dire ? En fait, on prend le problème un peu dans l'autre sens. C'est-à-dire que, si tu veux, on a tendance à se dire, ouais, un artiste qui se déplace et qui, enfin, qui se déplace beaucoup, il pollue beaucoup. Mais en fait, c'est paradoxalement un peu l'inverse. C'est-à-dire que plus l'artiste se déplace, moins les gens vont se déplacer loin pour aller le voir, tu vois. Alors, et c'est ça qui pollue le plus. C'est-à-dire qu'en fait, ça pollue vachement plus de faire un seul show à Paris de toute la tournée française pour que toute la France se déplace pour venir te voir à Paris une fois. Ça va polluer 15 000 fois plus que si l'artiste se déplace dans plein de toutes petites villes et fait des tournées comme ça. Parce que c'est un peu décousu mon argumentaire, mais c'est, si tu veux, le truc vers lequel pour moi il faut revenir, c'est l'aspect un peu troubadour qui va de château en château présenter son spectacle, tu vois, plutôt que de dire eh ben je jouerai que là et puis les gens viennent à moi. Mais non, ça c'est ça pollue de fou, et c'est pour ça que le modèle des énormes festivals actuellement est pas du tout écolo. C'est à dire que voilà, les gros festivals qui programment des têtes d'affiches qu'on voit que chez eux, c'est ultra polluant parce que les gens vont se déplacer de hyper loin pour venir voir. Donc en fait, là on envisage la prochaine tournée comme une tournée où je vais me déplacer beaucoup, faire plus de dates, plus de shows pour que les gens viennent de moins loin me voir, quoi.
Mais plus de petites dates,
du coup, plus
avec
dates.
Des jauges plus petites et plus des festivals à 60 000 personnes, mais plutôt à...
Exactement. Voilà. Après, c'est toujours cool quand il y en a un. Généralement, on n'en fait pas 15 dans l'année, mais s'il y a un gros festival qui nous propose, c'est un peu marrant d'en faire un de temps en temps. Mais le truc, c'est d'avoir conscience que si tu fais ça, il y a potentiellement beaucoup de gens qui vont se déplacer de très loin pour venir. Et du coup, là, tu participes pas à rendre le truc plus écolo. Après, je dis ça, mais c'est aussi très important l'impact symbolique qu'a l'artiste, l'exemple qu'on montre en fait. Et c'est pas parce que les gens polluent en se déplaçant qu'il faut se dire ok, bah nous on s'en va les couilles, on va prendre 3 camions avec nous et puis prendre l'avion en veux-tu en voilà. Pas du tout, il faut que nous quand même, l'artiste, on est là, on a un poids politique par notre action publique, tu vois, et par notre influence et par ce qu'on projette comme message. Donc c'est hyper important de garder ça en tête. Et donc moi, je, par exemple, je prends l'avion je dis pas jamais parce que c'est un peu hypocrite, je le prends une fois, deux fois par an, j'essaie de vraiment vraiment les compter sur le doigt de la main. Et par exemple, la prochaine tournée, il n'y a pas de camion avec nous sur la route. On essaie de créer une scénographie qui rentre dans un trailer,
dans
ce qu'on appelle on aurait un tourbus avec, tu sais, une carriole derrière, en gros, truc de 12 mètres, 20 mètres cubes qu'on traîne. Et de faire rentrer tout là-dedans. Donc c'est-à-dire qu'il n'y aurait qu'un seul véhicule sur la route. Et ça, c'est pas mal de gymnastique logistique, essayer de créer du coup une scénographie qui va pouvoir être démontable ou roulable ou gonflable, j'en sais rien, un truc qui rentre dans un petit machin. Et donc ça nous fait polluer moins parce qu'il n'y a pas de camion, ça fait que du coup on va se déplacer sur plus petites dates. Donc voilà, il y a plein de petites choses. Le merchandising, évidemment, qui est un peu la vitrine. Bah, typiquement, le merchandising, c'est hyper important de le faire avec de la seconde main parce que c'est possible de ouf, de le faire en circuit court si jamais tu veux faire des trucs neufs avec des entreprises françaises, locales, qui replantent des arbres ou caisses. Il y a plein d'options possibles plutôt que d'avoir recours aux merch basiques produits en Chine, etc.
China,
voilà. Ça, c'est un peu le truc, avoir des gourdes, manger VG, etc. Ça, c'est un peu les vitrines, mais qui sont pas négligeables parce que, comme je disais, ça a un impact symbolique sur les gens et sur le public qui te voit faire ça en tant qu'artiste et se disent ah bah cool, c'est cohérent, ouais. Tu vois.
Pour toi, c'est important d'être un exemple en fait. En tant qu'artiste, ouais. Le fait de prendre position, c'est important. Ouais. Et je crois que tu me disais la dernière fois, le fait de pas prendre position, c'est prendre une position en fait. C'est pas ce que tu me disais la dernière fois.
Complètement, tout est politique qu'on le veuille ou
non. Voilà, le fait de pas être engagé, c'est que tu prends position.
Ouais, exactement. En fait, le truc c'est que on vit dans une société. We live in a society. On vit dans une société qui est construite sur le modèle capitaliste et qui est construite comme ça, construite sur la production, sur la consommation, sur ce modèle de toujours plus, accumulation des ressources, etc. Et s'ériger contre cette mentalité-là, aujourd'hui, enfin, être écolo, être de gauche, c'est
être rebelle,
être de gauche, c'est être en opposition au système actuel. Tu vois. Donc en fait. Si on prend pas position et qu'on reste neutre, on est complice du modèle en cours, donc du modèle capitaliste. Donc en fait, et puis après, au-delà de ça, philosophiquement, toute action publique est politique. Et les artistes qui refusent cette politisation de leur personne, de leur image, ils sont irresponsables. C'est peut-être un grand mot, mais non, c'est un peu de l'irresponsabilité. C'est-à-dire que en fait, ils se mentent à eux-mêmes. C'est politique, qu'ils veuillent ou non. J'en sais rien, j'aimerais bien trouver un exemple comme ça. Il y a le conflit israélo-palestinien, mais typiquement, si tu statues pas sur le conflit israélo-palestinien en mode pro-Palestine, tu es considéré comme pro-Israël, parce qu'en fait, être silencieux, c'est être complice du massacre. C'est un petit peu la même chose dans la société. Si tu statues pas contre le modèle capitaliste, on va t'affilier au modèle capitaliste parce que c'est ce qui est dominant.
Et puis c'est même par rapport au racisme, par exemple, ouais. On dit beaucoup être neutre par rapport à l'antiracisme, ou aujourd'hui par rapport à des causes qui sont dans une urgence de justice et d'évolution vers une paix. Ça suffit pas de ne pas être raciste. Aujourd'hui, ouais. Il est question d'être anti-raciste. On peut ne pas être raciste, mais aujourd'hui, il s'agit d'être anti-raciste et, par exemple, en tant que blanc, d'être un allié, comme la cause LGBT. Plus, pardon, je vous aime tellement.
Je vous écoute.
Mais c'est comment?
QIA+, ça. Ouais.
Ça suffit pas de. Bizarrement, encore une fois, on parle de l'impact populaire, puisque toi, tu parles, on l'a vu ce soir, c'est une communication avec le peuple, avec les fêtards, avec les gens qui vivent, qui votent. Et aujourd'hui, ça suffit plus de ne pas être raciste, de ne pas être homophobe, de. Voilà, je pense qu'il faut aussi maintenant se positionner pour limiter les injustices et les souffrances inutiles.
Le silence, la neutralité te condamne à être associé au modèle dominant, c'est-à-dire le modèle oppressif. Ça devient un podcast, notre truc là.
Ah non, surtout quand on est blanc.
C'est parfait. Donc, il y a Eva en face de toi. Eva, son contenu, c'est Eva Les Petits Plats, qui est chef vegan. Toi, la cuisine vegan, végétarienne, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que. Par exemple, sur ta tournée, est-ce que c'est un truc pour limiter justement l'impact carbone?
Carrément. Moi-même, je suis végétarien. Opportuniste, c'est-à-dire que je suis végétarien et j'aime trop les sushis.
Elle va te faire des sushis végétaux.
Mais oui, en plus.
Non, d'ailleurs, ce soir, c'est full végétarien, c'est full vegan. C'est la team Mike Alang, il y a aussi de la cohérence. On protège
notre littoral
méditerranéen. Et Eric est vegan, le cofondateur de l'association. Et ça fait plaisir aussi de voir des associations cohérentes par rapport à ça. Et de plus en plus de monde sont conscients de la consommation des produits de la mer.
Ça aussi sur les festivals et les événements comme ça, de plus en plus, en fait, on a des food trucks 100% végé. À Utopia, c'était 100% végé aussi.
Ouais. Il y a plein de festivals qui se mettent vraiment qui jouent le jeu et qui proposent que des options végétariennes, et c'est mortel. C'est trop bien que ça évolue dans ce sens-là. D'ailleurs, le monde du festival est vachement en avance pour ça. Ils sont vachement moteurs, ils proposent. C'est un petit peu. C'est trop bien que le monde. Bah, c'est trop bien. C'est presque évident, le monde de la culture a toujours été progressiste. Et du coup, ça fait trop plaisir de voir ces options-là émerger dans les festivals, etc. Et grave, moi, en tout cas, j'ai découvert ce que c'était d'être végétarien assez tôt. Et la cuisine végane est vraiment la parce qu'il y a un truc dans la cuisine végane qui va au-delà de juste pas manger de viande. C'est vraiment genre faire des nouveaux alliages et créer des nouvelles saveurs à partir de trucs que tu soupçonnes pas, même que tu soupçonnes pas qu'existent des fois. Et en fait, ça, j'ai découvert à Paris, paradoxalement.
Et à l'international aussi, j'imagine.
Et à l'inter, ouais.
Et à l'inter, parce qu'en France, on est en retard et quand tu voyages.
Quand même, ça va mieux.
Hein. Oui, ça va mieux. Mais...
dans les grosses villes, ouais, ça va mieux. Et tu vois, typiquement, ça me faisait marrer d'arriver en Inde. Et en Inde, ils sont végétariens. Bah oui, tous. Mais, oui. De ouf. En fait, la viande, c'est vraiment exceptionnel de malade.
Bah, la vache est sacrée là-bas.
De ouf. Ça limite déjà pas mal de trucs. Donc, en fait, c'est vrai qu'en France, on a quand même cette culture de mon pinard, mon cochon.
Le lait, le beurre, ouais. Le fromage. Ouais. Et en Inde et tous les pays asiatiques, ils ne consomment pas de lait. Hein.
Ouais, de ouf.
C'est qu'en plus, on a cette culture, la culture à l'école. Tu sais, les intervenants du lobby du lait qui venaient en disant faut manger, boire du lait, machin, les os, le calcium, blablabla. Et t'es là, waouh, le mensonge dans lequel on a vécu jusqu'à méga tard.
Moi, je suis de culture méditerranéenne et culture italienne, marocaine, portugaise. On consommait de la viande et du poisson. On avait le pêcheur familial matin, midi et soir. Et c'est à 27 ans que j'ai découvert qu'une vache laitière, c'est pas une espèce de vache. C'est pas une vache qui fait du lait. Pour qu'elle fasse du lait, il faut qu'elle l'enfante, que ce soit une maman, qu'elle fasse un veau. Et pourtant, je suis une femme et j'avais complètement dissocié le lait maternel de la notion du lait de vache. Et je pense qu'on est de la même génération, d'une génération des années 90 où on nous a beaucoup menti dans la publicité, par exemple, d'un essor de la surconsommation, essor de beaucoup de supermarchés, de fast-food. On nous a menti sur plein de choses et je me suis dit que je m'étais moi-même fait endormir. Une vache laitière, ça n'existe pas, c'est une maman quoi.
Ah, d'ouf.
Et quel serait ton plat végé préféré?
Quand tu veux, tu viens à la maison, je te cuisine.
Avec plaisir. Bah écoute, c'est quoi?
Tu sais, si t'aimes le poisson, elle fait des faux saumons à base de carottes.
Ah waouh! Wow.
Je fais tout.
Elle sait tout faire. Mais elle fait des toasts, genre saumon fumé, mais c'est à base de carottes.
Ah mais incroyable.
C'est trop bon.
Ah, ça, ouais. C'est trop bien. Bah écoute, en vrai, ça serait ça mon plat.
Viande ou pas viande, moi justement, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu aimes manger. Moi, j'ai mangé beaucoup de viande et de poisson, voilà, pendant 25 ans, 26 ans, et je me suis inspirée. Il était hors de question. J'ai voulu arrêter de manger de la viande et du poisson pour des raisons écologiques et politiques, mais il était hors de question que je ne me fasse plus plaisir. Voilà. Pour moi, à ma table, ma mère, elle faisait à manger, c'est une italienne, si tu te resserres pas, c'est mal poli, tu vois. Ouais. C'est sacré, c'est dans le top 3 des plaisirs humains. Et donc, je me suis dit, ok, mais qu'est-ce que je vais manger si je mange plus de viande et de poisson? Et donc, j'ai réfléchi à tout ce qu'on avait de traditionnel à la maison, parce qu'on est quand même un peu français. Je vous rappelle qu'on est marseillais, mais on est français, quand même. Et je me suis beaucoup inspirée des sauces et tout. Et je me rends compte que dans la durée, j'ai réfléchi à toutes ces traditions. Et je suis intéressée justement d'écouter, de parler avec des nouveaux végétariens, des nouveaux véganes ou même des gens qui veulent réduire leur consommation. Qu'est-ce que tu aimes de base? Peut-être en fait, ça va être la sauce, ça va être l'assortiment, ça va être la couleur qu'il y a sur la table, ça va être les souvenirs d'enfance. Et on peut tout transformer. Bon, pas le reblochon, j'ai dû faire le deuil, c'est dur.
Il y a plein de plats
on peut tout
traditionnels qu'on peut revisiter
et
en
découvrir,
version vegan.
Comme tu disais, il y a des choses on n'est pas éduqué et qu'on connaît pas, et en fait de là naît des passions, des nouvelles saveurs, et on peut se régaler quoi. Et le plaisir reste. Moi, j'aurais pas, ça fait 11 ans que j'ai pas mangé ni viande ni poisson, et j'aurais pas réussi à perdurer dans la durée. Ça fait deux fois durée.
Ouais.
Si je m'étais pas fait plaisir.
Et, ouais.
Et de là est née cette passion pour l'association des saveurs, des textures, de se conforter dans les souvenirs d'enfance, mais des souvenirs d'enfance carnés quoi. Au Maroc, en Italie, à Marseille, en France. Donc je serais ravie de t'inviter à ma table. Qu'est-ce que c'est ton plat préféré?
Ton top 3. Je sais pas, en plus moi j'ai toujours été un même gamin et tout, j'étais un mec qui mangeait tout. Et vraiment genre jamais été difficile et tout, il n'y a rien qui me rebute. Et les trucs qui m'ennuient, genre la purée. Par exemple, ça m'ennuie.
La vraie purée maison avec de la ciboulette.
En fait, il y a un truc de texture en bouche qui est, j'ai besoin que ce soit intéressant. J'adore les plats qui mêlent plusieurs textures. Tu vois, où il y a vraiment un truc où tu prends une bouchée et puis c'est un peu croquant et c'est un peu juteux et c'est un peu mou et c'est un peu nanin et c'est un peu, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça, typiquement dans les. Genre le crumble, tu vois. C'est un truc vraiment, je ouf de crumble. Je sais pas. Bah, pomme, parce que je suis normand, tu vois.
T'es normand.
Beurre salé, pomme, let's go. Normandie, tu vois.
Ça va.
Et avec la boule de glace vanille, maison, blaf et tout. Et non, mais en vrai, il y a un game. Moi, il y a un plat que j'adore et que je refais d'ailleurs, que j'ai de mon grand-père, de ma grand-mère d'ailleurs. C'est la tarte à la tapenade d'olive noire. Ils ont appris à faire ça en mode en Provence. Et ils avaient une baraque en Provence, dans le Luberon, dans lequel je reviens souvent en pèlerinage un peu, tu vois. Et donc, c'est. Déjà une pâte à tarte machin, de la brousse corse, ouais. Le fromage frais de brebis, la brousse c'est brebis, je sais plus, je crois un chèvre, j'ai vu,
ouais, c'est
truc frais
chèvre,
comme ça, ouais. Machin, tapenade d'olive noire, brousse, tapenade d'olive noire, herbe de Provence au four, bam, c'est de la folie.
Petite, le délire d'olive, quoi. Astuce vegan, la tapenade typique de la région de PACA, n'est-ce pas? La tapenade, normalement, on met de l'anchois avec les olives noires. Hein? Il y a plusieurs versions. En Italie, on met des pignons avec les olives vertes et tout. Pour remplacer l'anchois, on met des capres.
Ah oui, ok.
Ah, c'est ce qui se fait en Sicile aussi.
Ah ouais, ok.
On fait des olivades avec des capres. C'est très salé et en fait...
Et ça ramène le côté...
Le côté iodé par le sel et tout. Donc,
moi, j'en ai goûté une extrêmement délicieuse qui est dans un petit traiteur grec qui est dans ma rue à Paris. Olive noire, figue, mélangé et tout, c'est hyper bon. Ça fait ce truc. Du coup, il y a pas le l'anchois ou le capre. C'est vraiment il tape tout sur le côté sucré ramené par la figue. Ça, c'est ouf.
Un dernier mousse. Donc, on parle un petit peu musique quand même par rapport à ce que tu nous as fait ce soir. Donc un set hyper. Non, c'était hyper bien. Encore une fois, break.
Ouais.
Drum and bass, il y a de la basse à la fin, mais en fait c'était tes vieux sons que tu as remixé.
Ouais.
Et raconte-nous ça là en quelques mots.
Bah en fait c'est un petit peu pour amener gentiment les gens vers ce que je vais leur présenter l'année prochaine dans le futur album. C'est-à-dire que moi je suis un peu dans un délire de pas du tout mettre derrière moi le vieux style fakir chill, etc. Mais en ce moment ce qui me fait kiffer dans la musique c'est ce qui va vite, c'est la UK Garage, c'est la drum and bass, le retour de la drum and bass, tous les nouveaux courants un peu des années 90 en fait qui reviennent. Et ça me fait, j'adore, je trouve que c'est là que ça qui se passe des trucs intéressants en ce moment, et puis même ça me fait kiffer. J'avais jamais osé m'aventurer dans ces styles là jusque là parce que je pense que je m'affiliais pas forcément à ces courants là, et là je suis vraiment dans un mood presque un peu rien à perdre où j'ai envie vraiment de m'amuser, tu vois, de faire vraiment un truc qui me fait kiffer. Et du coup le futur album a beaucoup ces couleurs là, c'est un truc très
productions à toi,
c'était que à moi là, tout ce que j'ai basé ce soir. Et du coup il y a vraiment ce côté UK Garage, drum and bass, et donc je me suis dit est-ce que pour amener les gens à ça je vais prendre les sons qu'ils connaissent et puis remettre une sauce, tu vois,
prends la mélodie qu'on connaît
quand les morceaux étaient un peu lents, je les ralentis encore et je les transforme en drum and bass, donc je double le tempo et puis boum, ça devient de la drum and bass. Quand les morceaux sont un peu rapides, je les accélère encore plus et puis je mets un truc un peu UK machin, et en fait ça devient du break et c'est trop cool. Et du coup j'arrive à faire un set comme ça qui mêle les nouvelles et les anciennes productions, mais avec toute une vibe un peu plus récente, un peu plus au bout du jour, et puis un peu plus de ce qui me fait kiffer surtout, quoi. Voilà.
Super. On arrête. Il sort quand? On sait pas encore.
On sait pas.
L'année 2026. On a hâte d'entendre ça. Tu voulais rajouter quelque chose?
Ouais, parce que tu dis que à l'ancienne Fakir on le connaît en mode chill. J'aimerais quand même dire que moi je t'ai vu il y a 10 ans au Dock des Suds ici. Je crois que c'était le Positif Festival. Et alors peut-être que t'es connu pour tes sons merveilleux chill, mais à l'époque ils nous avaient fait danser comme des fous. Et c'est pas du chill, c'est du dansant très lumineux et nocturne aussi, du sombre qu'on peut connaître quand on est dans un milieu alternatif. Et c'était excellent. C'est, ça a été une des soirées mémorables pour moi, qui aime beaucoup aussi le milieu underground électro-techno. Et je suis ravie d'être avec toi ce soir.
Trop bien.
Je peux te faire un gâté ?
Ah, bien sûr.
Bah, merci beaucoup.
Trop cool. Merci.
Un petit truc à rajouter, non ? C'est bon.
Oui.
Hein.
Ouais. Moi, oui. Merci Clean Mike Alank.
Ah oui.
Pourquoi moi je suis ici ? Je les admire de par leur impact. Au-delà des résultats qu'ils ont, des nettoyages de plages qu'ils font depuis 8 ans maintenant, ils font aussi de l'éducatif dans les écoles et dans les lycées, de la sensibilisation. Tout Marseille les aime, tout Marseille vous soutient, vous êtes la famille. Bravo pour ce soir, le festival est incroyable et c'est pas fini. Bravo Clean Mike Alank, vous êtes les meilleurs.
Bisous.
Et voilà, c'était donc ce petit reportage fait la semaine dernière, donc c'était samedi dernier sur le toit de la fraîcheur.
Du bruit pour Amalia qui était juste avant, qui a assuré le ouf. Du bruit pour Pierre Christian qui arrive après. Vous êtes au bout de votre nuit, la nuit est jeune comme on dit. Bisous Marseille.
J'ai parlé un peu trop tôt. Et donc oui, je laissais quand même finir Fakir qui disait merci et au revoir au public marseillais. Donc voilà, c'était Eva de Eva Les Petits Plats que vous pouvez suivre sur son compte Instagram Eva Les Petits Plats. Sa chaîne YouTube également pour apprendre à faire plein de recettes véganes. Elle a également sorti des livres, si je me souviens bien. Alors j'ai pas sous les yeux, Eva, je sais que tu m'écoutes, je suis désolée. Les Petits Plats d'Eva, et elle a également sorti un livre sur la mer. C'est comment refaire les produits de la mer mais en version vegan. Il est génial ce livre, et en plus dedans elle parle un peu de son parcours également, notamment avec l'ONG Sea Shepherd, parce qu'elle faisait partie du crew Sea Shepherd. Elle était chef à bord des bateaux. Donc voilà, des livres très intéressants, hein, si vous avez un cadeau à faire, bah, c'est toujours bien un petit livre de recettes vegan même, et voilà, et son contenu pour apprendre à faire plein de recettes. Et Fakir, bah Fakir, on ne le présente pas, hein, on le connaît parfaitement. Il va sortir, comme il nous disait dans son interview, un nouvel album l'année prochaine et on a hâte de l'entendre. Moi, il m'a fait écouter en avant-première certains sons et je peux vous dire que ça va être génial. On va écouter, avant de passer à la suite de l'émission, justement Fakir avec Underwater featuring Kavia. Et c'est Miralo Remix. C'est un Miralo remix. Fakir avec Underwater. Et c'était un remix de Miralo. Et je vous l'avais déjà diffusé, ce remix. Allez, on va passer maintenant à la chronique du jour. Et vous reconnaissez peut-être, je vous l'ai déjà diffusé. Et oui, on va parler de bicep dans cette chronique. Donc, c'est ce soir à la Friche Belle de Mai, un moment rare et attendu. Le duo originaire de Belfast, donc Bicep, Andy Ferguson et Matt Bagbriar, est là pour présenter leur projet Chroma. Ce projet qu'ils ont lancé l'année dernière, hein, en janvier 2024. Donc Bicep, hein, c'est, vous le savez, je vous les présente tout le temps. Alors il y a quelqu'un qui arrête pas de passer depuis tout à l'heure, mais c'est bon. Vous le savez, je vous les présente tout le temps parce que c'est vraiment un de mes groupes d'artistes préférés. Et ils viennent de Belfast. On connaît leur électro-mélodique et percutante, toujours entre émotion et énergie brute. Avec Chroma, ils franchissent un nouveau cap, un live immersif, visuel et sonore. Pensez comme une expérience totale. En fait, donc on est loin d'un simple DJ set. On les avait déjà vus en DJ set lors d'un Mars Attack au Parc Chano, je me souviens, c'était environ il y a 8 ans. Ouais, peut-être par là. Et mais là c'est, ça va au-delà avec ce projet Chroma et j'avais vraiment hâte de le voir. Je suis contente qu'ils viennent à Marseille ce soir. Donc j'en étais où ? Là on écoute Helium. C'est le premier titre de ce projet Chroma. Bicep a conçu Chroma comme un univers global, un label, une série d'événements et un spectacle audiovisuel en constante évolution. Donc ceux qui l'ont vu à Londres, bah, ils verront pas la même chose ce soir à Marseille. Ils travaillent avec le studio Terrain de David Rudnick pour des visuels immersifs synchronisés en direct avec la musique via pédales, drums, machines et decks. Donc le titre qu'on écoute là, Helium, c'est le premier morceau publié dans la série Chroma. On y retrouve tout ce qui fait la patte de Bicep, tout ce qu'on aime, les nappes mélodiques hypnotiques, une ligne de basse lourde, un break garage, comme j'adore, et surtout une tension qui monte. On l'entend monter depuis tout à l'heure. Donc ce morceau a été pensé pour la scène, avec l'idée de créer une ambiance à la fois planante et intense. Il a d'ailleurs été conçu à l'origine pour leur énorme show à Alexandra Palace à Londres. Chroma, c'est pas juste une série de morceaux, c'est tout un univers audiovisuel, un live immersif, travaillé donc sur le terrain, avec le studio terrain donc de David Rudnick. Les visuels générés en direct, c'est tout généré en direct, c'est un truc de ouf, sont pilotés comme un instrument à part entière. Ils jouent avec des pads, des machines, les images répondent en son. Au son en temps réel, c'est entre le live et le DJ set, mais avec une scénographie pensée comme un véritable show. On va découvrir ça ce soir. Là, on va écouter un autre son de Chroma. Je vous les avais tous fait écouter parce que c'est sorti depuis l'année dernière. Ah, j'ai oublié de monter le volume. Là, on écoute Rola. Là, on est plus dans une techno brute, précise, des synthés laser, une rythmique sèche et toujours cette capacité à faire monter la pression. Ça, c'est ce que nous fait Bicep depuis toujours. C'est un de leurs morceaux les plus sombres, d'ailleurs, de ce projet Chroma, et c'est taillé pour le club pur et dur. On verra ça ce soir. Bicep, c'est un duo à part dans la scène électro. Ce sont deux potes de Belfast, hein, je vous le disais en introduction, Andy Ferguson et Matt McBriar. Ils ont commencé avec un blog en fait de musique underground et ils ont toujours eu cette culture du digging. D'ailleurs, ils font pas mal de mixtapes aussi. Vous pouvez les retrouver, les mixtapes de Bicep, elles sont géniales. Avec Chroma, ils proposent une vision plus expérimentale de la musique électronique et le public le suit quand même, hein, parce qu'à chaque release, c'est un petit événement. Chaque show est salué comme une vraie expérience. Ils ont déjà présenté Chroma à Londres, Milan, Amsterdam, Berlin. Et donc, ce soir, c'est Marseille qui est dans la boucle. On va terminer, on va écouter un peu la Rola. Et après, je vais vous passer un dernier titre de Bicep. Il est sorti aujourd'hui, on va écouter Brio tout à l'heure. Écoutez toujours Bicep sur ce projet Chroma. Et là, c'est Rola qu'on écoute. Et on va écouter maintenant le tout dernier titre du projet Chroma. C'est Brio et c'est sorti justement ce matin. Ça vient tout juste de sortir, donc je l'ai découvert ce matin. Vous allez le découvrir quasiment en même temps. Donc on termine avec Brio, le dernier titre en date sorti ce vendredi 6 juin. C'est une belle conclusion à la série Chroma, un morceau plus lumineux, presque euphorique, mais toujours avec cette finesse de production qui distingue Bicep depuis toujours. Une touche plus claire comme un lever de soleil après une nuit de danse. Donc ce soir à la Friche, on ne vient pas juste à un concert ou à un festival électro, mais on entre dans une expérience visuelle et sonore complète, pensée dans les moindres détails. Personnellement, moi j'attendais ce moment depuis la sortie du projet, je ne pensais même pas qu'ils allaient venir un jour à Marseille et je suis bien contente que Bicep soit là ce soir à la Friche, juste à côté, au-dessus de moi, tu vois, ils sont peut-être déjà là. Non, c'est vraiment très cool, apparemment il reste des places, donc moi si vous êtes fan d'électro expérimental, break, garage avec plein de visuels et plein de voilà, il faut aller voir Bicep ce soir. Bon, on va remettre Chroma, on va remettre Brio, dernier son de Chroma sorti ce matin. Et après, on se retrouve toujours en direct des studios de Radio Galère. Et notre invité Kepler est déjà là, donc le temps qu'il s'installe, on met le morceau depuis le début. Et on se retrouve juste après, toujours sur le 88.4 FM à Marseille et radiogalère.org, partout dans le monde. Allez, Bicep, le projet Chroma avec le dernier titre, Brio. Et c'était donc Bicep sur le projet Chroma. Et le tout dernier titre qui est sorti ce matin, c'est Brio. Et hâte de les voir du coup ce soir pour ce projet Chroma ici à la Friche Belle de Mai. Ça va être assez énorme. Et apparemment, ce que j'ai vu ce matin, il restait encore des places. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment une occasion comme ça à Marseille. C'est énorme, il faut y aller. On est de retour dans les studios de Radio Galère sur le 88.4 FM et radiogalère.org. Et mon invité du jour est là, Kepler, comment ça va ?
Salut, ça va, très bien, merci de m'accueillir.
Je vais te dédier une chaise à ton nom.
Ouais, je crois, je commence à être l'invité récurrent.
Ouais, voilà, un des invités récurrents. Donc Kepler du collectif marseillais Caisson Gauche, mais pas que, parce que...
Il y a plein de projets.
Il y a plein de projets
on est là pour en parler.
Qui gravitent autour de toi. Déjà, un petit mot sur Bicep, là, qu'on vient d'écouter. Et ça, c'est le genre de son que t'aimes aussi, non ?
Alors, j'aime beaucoup, ouais, beaucoup Bicep aussi. J'avoue, j'avais pas écouté celui-là.
Il vient de sortir ce matin.
Ok, ouais. T'étais vraiment à la pointe, là.
Ouais.
Et oui, c'est vrai que c'est une chance de les avoir ce soir au bon air. J'avais même pas rapproché que c'était ce soir.
Et ouais. Ah ouais, c'est pour ça que je suis à fond là, de toute la journée. Je tremble, je les adore. Non, vraiment, ils sont top. Non,
c'est une belle date, ouais.
Et ouais, parce que je sais que t'aimes bien la bass music, toi aussi.
Je kiffe la bass music, tout ce qui est un peu anglais.
Ouais, voilà.
Mais vraiment dans sa globalité, comment
ouais,
dire.
Pareil. Donc on n'est pas là pour parler de ça, mais pour plein d'autres projets. Parce que cet été, ça va être très rempli pour toi.
Exactement, là, ça commence déjà super chargé en juin. Là ouais. Déjà on attaque avec Mars Attack la semaine prochaine.
Et oui.
Avec ma collègue Lisa, donc ça c'est une date qui me tient à cœur. Après on attaque aussi avec le lancement de Mondeniaske, le lancement de 2025 de Mondeniaske. Moi j'ai aussi Luisance Sonore dont on avait vite fait parler
oui,
la dernière fois si on pourrait reparler de ça.
C'est vrai.
Un festival de deux jours super cool.
Et c'est marrant parce que depuis quand tu m'en as parlé, ouais. Et ben, j'arrête pas de voir la sponsor sur Instagram et ça me donne envie, je te jure.
Ah ben franchement, n'hésite pas.
Ouais, ça me donne envie. Du coup.
Et donc bah, tant mieux, ça veut dire qu'ils font bien le taf.
Ouais.
Et non, l'usine sonore super cool, là j'ai trop hâte aussi. Et bien sûr, après, donc ça c'est pas vraiment en juin, ça arrive en juillet, le 7 juillet, le lancement de notre gros event Summer Act, avec Caisson Gauche du coup, cette fois. Et le premier acte des Summer Act qui aura lieu donc le 7 juillet au Rooftop R2.
Et ouais, ça y est, vous prenez place au R2. Au R2, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ce genre de soirée au R2. Hein. Ça avait un peu...
Ça avait complètement changé de direction
voilà,
artistique. Ouais.
On est d'accord.
Après, le R2, c'est à la fois un peu, on va dire, inattendu. Parce que c'est vrai que les gens ne nous attendent pas forcément ici,
ah ouais,
et qu'on
n'a
pas forcément l'habitude de voir ça ici. Et en même temps, ça paraissait évident, parce que là, qu'il n'y a plus le Doc des Suds, par exemple, ou des choses comme ça, ça reste une des dernières salles à Marseille qui peut accueillir autant de gens. Et puis, malgré tout, ça reste une salle super qualitative, avec un système son de fou, et la possibilité d'accueillir les gens dans des conditions de malade, de vraiment pouvoir s'exprimer au niveau de la déco. Voilà. Et je pense aussi que le lieu reste exceptionnel aussi, où il est situé. Quoi.
Voilà, un beau lieu. Donc c'est aux terrasses du port, hein, pour
c'est
celles
ça,
et ceux qui ne connaissent pas.
Le rooftop des terrasses du port.
Le rooftop, mais c'est vrai que ces dernières années, moi ça doit faire bien 4 ans que je n'ai pas remis les pieds là-bas. Je ne sais même plus la dernière soirée que j'ai fait là-bas, pour tout avouer.
C'est vrai qu'eux, ils s'étaient fait connaître vraiment au tout début, au lancement. Avec des soirées un peu plus électro,
c'était
on se rappelle Boris Brejac,
les
Guido
jardins
Ratto,
suspendus, je crois.
Il y avait
c'était...
les jardins suspendus, oui, c'est vrai.
C'est ça, ouais.
Thibaut et Clément qui géraient, je pense, la programmation. Après, je ne sais pas exactement comment ça fonctionnait, mais ouais, c'était eux qui géraient, je crois, la programmation au début. Et en fait, bon, il faut savoir aussi que le R2, ça a changé de direction, en fait, récemment.
D'accord, ok.
Et que là, la nouvelle direction, elle a envie de réenvoyer un peu une impulsion, un peu comme ça, de s'enlever certains trucs, peut-être, qui lui collaient à la peau.
Ouais.
Et nous, on fait peut-être partie aussi de ce renouveau. Et donc, on est très, très contents qu'ils nous laissent l'opportunité de le faire.
C'est eux qui ont fait appel à vous ?
Non, c'est nous qui avons fait appel
d'accord.
à eux.
D'accord, ouais. On disait, on a besoin d'un
non,
lieu.
Ouais, voilà, c'est ça. Bon, ça a été compliqué. Ça a été quand même compliqué de les convaincre parce que, voilà, c'est un truc qui est complètement hors programmation par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire, que ce soit autant au niveau de la musique qu'au niveau des visuels et de l'univers qu'on transmet. Mais voilà, on a quand même réussi à les convaincre de s'y essayer. Je pense qu'ils ne vont pas regretter et on entame un beau truc, quoi.
Ben, ils ne vont pas regretter parce qu'il y aura du monde, je suis sûre. Là, j'ai vu la programmation, il y aura Cassie Raptor.
Il y aura Cassie Raptor.
C'est énorme.
Il y aura Cassie, oui. Il y aura Cassie Raptor, il y aura Majes, Matraque, Viesasbach, il y aura Omax aussi. Il y aura Adrian Mills et Claudy, ça qu'on attend, on a hâte de faire venir à Marseille. Après, pour des, on va dire, des DJ un peu moins connus, il y aura aussi DJ Snake, il y aura aussi Kishta, Majes, donc il y aura pas mal, il y aura pas mal d'artistes. Après, il y aura aussi les locaux, les résidents qui sont, les as usual, j'ai envie de dire. Et alors peut-être que j'en oublie là sur le line-up, je l'ai pas, pas sous les yeux.
je l'ai sur le téléphone là, tout donc.
Et j'ai peut-être oublié Carla Schmitt aussi.
Oui, ouais. Carla Schmitt, j'allais le dire. 25e heure. J'allais dire, il y a Carla Schmitt, 25e heure, ouais. Matraque, je sais pas si tu l'as dit.
Oui, Matraque.
Adrian Mills.
Claudie, Viesasbach.
Voilà. Et donc, ça sera plusieurs. Alors, c'est pas tous les lundis, mais il y aura trois dates.
Trois dates. On aura, alors, les trois dates, donc ça sera le 7 juillet et après le 4 août et le 18 août. Pour l'instant, on a annoncé que le line-up de la première date, donc ça sera 25e heure, Matraque, Majes, DJ Snake et Cassie Raptor. Donc d'accord. Ça fait déjà une belle brochette.
Ça fait
déjà un bon gros line-up. Et donc, on espère vous voir tous au rendez-vous là pour ce 7 juillet.
Et on peut déjà prendre les places.
Les places, elles ont déjà commencé à bien partir.
Ah ben ça m'étonne pas. Ouais, mais je vois parce que vous venez de créer la page sur Insta et il y a déjà plein de gens qui suivent. Hein.
Ah oui, ben
plein
tant
de
mieux,
gens qui commentent et qui suivent.
Je regarde pas forcément tous les jours, mais je suis content de.
Et donc ça sera du 18h 2h du mat.
Ça sera
c'est
du
cool.
18 2h ouais. du mat. Voilà, c'est un format un peu comme on a l'habitude de faire sur des lundis qui correspondent peut-être aussi mieux au lundi.
Ouais.
Et je pense que ça suffit.
Ça peut être un bon after work pour que ceux qui continuent à travailler cet été,
ouais.
les lundis. Donc ça, c'est le Summer Act. C'est vous qui l'avez créé, donc c'est Caisson Gauche.
Oui, là, c'est un projet. C'est un projet qu'on brande avec donc Caisson Gauche.
Ouais.
Donc c'est Ayman de Caisson Gauche et c'est oui nous qui sommes à l'origine d'accord. du projet, de l'ADA, du line-up, tout ça. Quoi.
D'accord. C'est pas une soirée, non, parce que j'avais cru voir une soirée à Paris qui s'appelait aussi comme ça. C'est pour ça j'ai cru.
Je t'avoue que on essaye quand on choisit un nom pour quelque chose, on essaye de voir que pas d'autres choses s'appellent comme ça.
Mais
ça peut arriver que quelque chose nous passe sous le nez.
Surtout en été, forcément.
Oui, c'est vrai que sur le nom, on est resté assez simple. Moi, je trouvais que c'était assez parlant et du coup, ça allait assez transmettre ce qu'on avait envie de transmettre. Mais oui, c'est possible que. À Paris, quelque chose qui s'appelle.
Non, c'est que du coup, ma question, c'était de savoir si c'était une création.
C'est une création originale.
Originale. Très, très bien. Bah, très bien. Pour une première édition, donc, à Marseille, au rooftop. Donc, trois dates cet été. Tu as dit le 7 juillet,
le 4 août et 4 le 18 août.
Et le 18 août pour celles et ceux qui restent à Marseille cet été.
On est en train de travailler sur mettre en place des afters aussi.
Ah, cool.
Pour ces soirées pour les plus vaillants.
Ouais. Attends, un lundi soir. Je suis en train de réfléchir au lieu. Où tu veux faire ça?
Ah ben, on a de la ressource,
D'accord, il va nous trouver un petit truc là. Donc ça, c'est trois lundis de cet été. Mais il y a aussi, on vous connaît aussi, Caisson de Gauche pour les Monday Niasqué.
Exactement, pour Monday Niasqué.
Monday Niasqué.
Alors les gens ne nous associent pas forcément directement à Monday Niasqué, mais Monday Niasqué, c'est vrai que c'est un projet qu'on a monté avec mon associé Louis il y a 3 ou 4 ans bientôt maintenant. Donc on fait tous les étés ou sur lequel on se régale. Cette année, on le relance. Alors ça sera pas au même endroit que d'habitude, ça sera pas à la plage des Sablines.
Et comment ça se fait?
J'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails, mais on va dire qu'on pouvait pas continuer à accueillir le public comme on voulait, dans les conditions qu'on voulait. C'était pas possible de les accueillir convenablement, on va dire. Donc du coup, on a quand même réussi à trouver un nouveau lieu très sympa qui va être le rooftop du centre commercial du Prado.
Trop bien. D'accord.
Donc on reste quand même sur un open air. On est sur un lieu qui est franchement et super stylé, avec bar super sympa, super bouffe aussi sur place.
J'ai jamais mis les pieds là-haut.
Ah ben franchement, c'est canon.
Ouais.
À deux pas du stade Vélodrome, avec une vue à 360 de dingue, et on essaie de garder le même esprit avec l'entrée à 5 euros, l'ambiance Monday Niasqué.
Ouais, parce qu'on s'imagine un truc un peu plus guindé là au Prado quand même. Hein.
Ouais, c'est pas si loin que ça de la plage au final.
Mais t'imagines un truc, centre commercial du Prado, c'est quand même.
Nous aussi, on va un peu là où on trouve les lieux adéquats. Hein, et ça reste, nous, quand on l'a visité, là, ce rooftop, nous, on s'est dit, allez, faut y aller parce que c'est vraiment un beau lieu où on retrouve toute l'âme de, je pense, de Montaignasquet, ouais. C'est-à-dire une belle vue, le côté Marseille, l'open air, l'entrée ouais, pas ouais. chère, des boissons accessibles. Là, en plus, on rajoute la bonne bouffe, je vois pas pourquoi ça.
Ah bah ça ouais, nickel. Pas tout le monde. Ah bah non, mais c'est un chouette lieu. Vous l'avez pas encore annoncé sur les réseaux, le lieu, non?
Je crois pas. Peut-être, je sais pas. J'ai demandé à mon associé avant de venir, est-ce que je peux dire où c'est? Il m'a dit oui.
Ah bah voilà, on dit où c'est. Ça va commencer quand?
Ça commence le 23 juin.
D'accord, donc
juste
bientôt,
après la fête de la musique.
Juste après la fête de la musique, juste une semaine après Mars Attack. Donc c'est dans deux semaines en fait.
Ouais.
C'est dans deux semaines.
Ouais, ça va aller vite.
Ça va être cool. Et après, ça sera tous les lundis?
Et après, ça sera tous les lundis. Comme avant.
Ok. Et avec deux.
Et avec à chaque fois même concept, la ribambelle de tous les collectifs marseillais. Donc on a essayé de contacter le plus de monde possible, tous les collectifs, les DJ, voilà, qui sont invités à venir mixer.
Bon, on va en parler un peu plus longuement, mais tu nous as prévu comme d'habitude une petite playlist.
Ouais.
Le premier son, c'est DJ Zinc et ouais. Brazy, All Eyes on Me.
Ouais, exactement.
Alors, c'est quoi ce son?
Alors, DJ Zinc, c'est un artiste que j'aime beaucoup. C'est un DJ producteur britannique qui est là depuis ouais. les années 90. Mmh. Et c'est une figure majeure de la scène électronique en Angleterre. Dans le genre drum and bass, UK garage ou breakbeat. Après, on va dire après 2009, il a un peu quitté la scène drum and bass pour se concentrer plus sur la house, la bass house, la UK garage. Et il est encore actif aujourd'hui, il sort des sons tout le temps. Et ça, c'est son dernier son qui est un hymne à cet été. J'espère que vous allez l'aimer.
Il est sorti, là, il vient de sortir le son.
Il me semble qu'il est sorti il n'y a pas longtemps.
Ouais. Ah ben bah, trop bien. All Eyes on Me, c'est DJ Zinc et Brazy.
Exactement.
C'était le choix de Kepler. All eyes on me, yeah, I can tell. Feeling good, I'm hot as hell. Come on, not your shell, do what you do and do it well. All eyes on me, no, I don't know. I don't care, I've got to go. To the dance floor, where I'll shake it down low. Can you feel the vibe? Let's show that to the rest. Okay. Let's show that to the rest. Okay. All eyes on me, yeah, I can tell. Feeling good, I'm hot as hell. Come on out your shell, do what you do and do it well. All eyes on me, no, I don't know. I don't care, I've got to go. To the dance floor, where I'll shake it down low. Yeah. Is it you and I? Yeah. Do we do it best? Yeah. Let's show that to the rest.
Okay. Let's show that to the rest.
Okay.
Let's show that to the rest.
Okay.
Mm-hmm. All eyes on me, yeah, I can tell. Feeling good, I'm hot as hell. Come on out your shell, do what you do and do it well. All eyes on me, no, I don't know. I don't care, I've got to go. To the dance floor, where I'll shake it down low.
Et c'était le choix de notre invité Kepler, donc, et c'était DJ Zinc avec Brazy pour All Eyes on Me. Super bon choix, c'est vrai que c'est bon pour l'été ça.
C'était good vibe.
Ah grave, ah ça fait du bien, c'est trop bien. Donc c'était ton choix, c'est un son que tu...
Ouais, c'est un son que j'écoute en ce moment, que je vais peut-être incorporer au set de l'été. Là en fait,
ah, oui.
Je suis tellement en train de chercher plein de trucs, que là j'en avais beaucoup de sons, ça a été dur de choisir lesquels
ouais,
amener.
Lesquels amener aujourd'hui. Donc on parlait de Montaignasquet tout
ouais.
à l'heure. Donc on disait nouveau lieu sur le rooftop du Prado, hein, un
voilà.
lieu qu'on ne connaît pas forcément quand on est dans le milieu techno et
non, mais qui existe pourtant depuis longtemps.
C'est,
hein, c'est juste que ce n'était pas notre communauté forcément qui allait là-bas.
C'était quoi, un resto ou c'est un club, c'est quoi?
C'est un resto qui fait que c'est un resto dancing, quoi.
Ah,
c'est
ouais. Ça, ouais. Resto dancing.
En fait, on va dire, je sais pas trop comment appeler
ouais,
ça.
Ouais, hein. Non, mais je vois, oui, mais c'est genre resto club, là, où tu manges et il y a un.
C'est
DJ
ça, et après tu peux monter, ouais, manger ouais, au-dessus. Et du coup, nous, on se le réapproprie. Et voilà, après, comme je disais, nouveau lieu, mais même concept.
Mais le même concept.
C'est-à-dire, voilà, l'ambiance populaire marseillaise avec tous les DJ qu'on kiffe, qu'on connaît, l'entrée pas chère, les boissons pas chères. Et là, en plus, une offre de boissons beaucoup mieux que les années passées.
Et oui, parce que là, il y a un vrai bar, j'imagine.
Parce que là, il y a un vrai bar, quoi, exactement, du coup. Il y a même deux vrais bars. Et une cuisine avec un vrai cuistot. Donc ça, je pense que c'est aussi un plus. Et puis, on va garder la même énergie, quoi.
Ouais, et il y aura moins de problèmes de voisinage.
Et il y aura, je pense, moins de problèmes de voisinage. Vu où on est placé, ça ouais. devrait aller là. À part le stade, on va pas emmerder grand monde.
Ouais. Du coup, est-ce que t'as déjà un peu la programmation pour le premier lundi donc ça sera le 20. Non. Et tu m'as dit le 23, mais c'est le 24 du coup. Ou c'est le 23.
Non, c'est le 23. Le lundi,
ouais, c'est le 23,
semble,
t'as raison, ouais.
C'est le 21, c'est la fête de musique,
ouais,
samedi,
ouais, c'est ça,
22, 23. Et la programmation, bon, là, je t'avoue que je l'ai pas sous les yeux. En plus, j'ai coupé le téléphone pour pas que ça interfère avec le micro.
Ouais.
Et on n'a pas encore lâché la programmation date par date.
D'accord.
Moi, je la connais.
Ah,
on les
et
a,
t'as pas le droit de le dire.
On le dit pas encore, on va le lâcher au fur et à mesure.
Ok. Donc, de toute façon, j'en reparlerai dans l'émission, celle du 20. Du coup, celle du 20 juin.
Très bien.
On en reparlera. Et je viendrai parce que tu sais que je travaille juste à côté.
Ah ouais?
Je travaille à côté du stade, moi. Ouais, juste derrière.
Ah bah alors, parfait.
Donc,
tu sais
ça me fera un
lundi,
bon
quoi.
After work.
Ouais.
Ça commence à quelle heure?
Ça commence à 18h.
Ouais, voilà. Donc, c'est parfait.
C'est vraiment hyper bien
timé.
After work.
After work. Mandé Niasqué. Vous y étiez l'année dernière? Il y en avait des Mandé Niasqué?
Oui, l'année dernière, il y avait Mandé.
Non, ouais.
Parce que l'année dernière, c'était notre dernière année
au Sablette, moi. Sablette, c'est une autre
c'est
plage.
C'est à la Valentine.
C'est ailleurs. Donc ça, c'était vraiment les deux gros événements pour cet été. Il fait chaud. Hein.
Ouais.
Ça, c'était
les deux gros événements, on va dire, que j'organise, moi, mon associé, que j'organise avec mon équipe. On va aussi faire la fête de la musique. On va aussi faire la fête de la musique le 21. Donc ça, c'est plus modeste. Ça, c'est pour se retrouver.
Courjus,
la plaine. C'est ça.
Ouais.
Ça va être un événement sur lequel on va poser, on va poser deux scènes dans la même rue, dans deux établissements différents, avec deux ambiances différentes.
C'est vrai?
Donc, c'est la rue des Trois Rois, celle où il y a la traverse de Balki.
Ouais.
Donc, à la traverse de Balki, il va y avoir une scène fougou sur le thème drum and bass, bass
trop
musique,
bien.
un peu aussi chata, musique urbaine. Et après, de l'autre côté, dans un nouvel établissement qui ouvre ce soir, qui s'appelle Contour, qui a un nouveau salon de tatouage. Ici, on va poser une scène techno, art trans,
d'accord,
tout ça.
Donc, nouvel établissement, en plus, là.
Oui, voilà, c'est
Contour.
Ça. Oui, voilà. D'accord. Donc, j'en profite pour faire un peu la pub. Il y a Contour qui ouvre, c'est un salon de tatouage barbeur. Et juste à côté, Détour qui ouvre. C'est deux trucs collés.
D'accord.
Et Détour, voilà, il y a aussi l'inauguration ce soir. Et ça va être un marché de créateurs.
Détour, marché de créateurs, Contour, salon de tatouage barbeur.
Exactement.
Et vous allez poser juste devant pour la fête de la musique.
Exactement.
Donc, gros.
Et là, j'invite à peu près tout Marseille à venir, quoi. Ceux qui viennent pas, c'est ceux qui étaient pas disponibles.
Moi, je le saurais pas.
Dommage, la fête de la musique, ça pète à Marseille.
Sais, Courjus, la plaine, c'est toujours. Et Caisson Gauche poste toujours, d'ailleurs, pour la fête
oui,
de la musique.
Oui, c'est juste que. Caisson Gauche, nous, les artistes, on joue un peu partout.
Ouais.
Après, on fait plus forcément de scène Caisson Gauche parce que voilà, il faut toujours en faire toujours plus tous les ans.
Et
ça fait quelques années, on a arrêté la fête de la musique, donc on fait des trucs plus modestes entre nous.
Ouais, mais bon, là ça va pas
mais
être.
Mais c'est pareil.
Du coup, deux scènes.
Oui, deux scènes, Function One.
C'est énorme.
Ouais, mais quand vous voyez des fois ce qu'ils posent sur la plaine, après on se pose des questions.
C'est clair, ouais. Mais ils y vont en mode.
Ouais, voilà, c'est pour montrer ce qu'on sait faire, quoi.
Ouais, voilà. C'est qui aura les plus grosses enceintes,
c'est
le plus
ça,
gros
en
mur.
Fait, c'est un peu à ça à quoi on avait envie d'arrêter de jouer, nous.
Ouais.
Parce que c'est un jeu qui était très drôle. Mais maintenant, nous, on n'a plus forcément l'énergie de rentrer dans ça, quoi.
Tu laisses ça aux petits jeunes.
Voilà.
C'est ça. On va écouter un autre son maintenant. Donc, un autre son de ta petite playlist. Tu veux écouter quoi? J'ai tout sous les yeux.
Vas-y, je sais pas. Continue. Dans l'ordre dans lequel c'était, normalement, c'est bien.
Eh bien, là, c'est Disco Tetris, Luc Van Dijk.
Luc Van Dijk, Riordan, Remix.
Ouais, alors ça c'est quoi?
Alors ça du coup, Riordan, c'est un jeune artiste britannique aussi, je suis resté que sur des anglais, ouais. Qui est en train de tout exploser sur la scène House Tech House. Ouais. C'est, on m'attend pas forcément là-dessus, mais lui c'est un artiste que j'adore parce qu'il est très versatile et il mêle vachement le mainstream et l'underground. Donc il est vraiment connu pour des tubes Tech House, voilà, assez Ibiza presque j'ai envie de dire, mais des fois on le retrouve sur des bangers, garage, two-step, mm-hmm. ou des trucs rien à voir et il le maîtrise vraiment bien. Donc là, j'ai mis deux sons de lui, je crois, dans la playlist. Et
c'est Riordan, hein,
Riordan, hein,
Riordan, c'est le remix.
Et ça, et Luke Vanji, que c'est quelqu'un de très connu sur la scène Tech House, Minimal House, voilà, qui est très bon aussi. Hein. Donc, je connais un peu moins.
Luke Vanji, c'est ça. Avec, mais c'est parce qu'il y a un
Jik, c'est Luke Vanji. C'est Luke Vanji, Disco Tetris, Riordan Remix.
On écoute ça. Voilà, c'était donc le choix de notre invité Kepler C'était Luke Van Dyk, Disco Tetris, mais c'était un remix de Riordan que tu nous conseilles de suivre.
Ouais, je vous conseille de suivre et d'aller explorer un peu par vous-même. Là, c'était son versant le plus mainstream, on va dire.
Ouais.
Et peut-être qu'on aura le temps d'en écouter une autre qui sera un côté plus underground.
Ah, bah cool, carrément.
Mais bon, j'allais pas vous mettre toute la discographie, donc je vous invite à aller voir vous-même. En plus, il est quand même au début de sa carrière, donc je pense qu'il va encore nous lâcher beaucoup, beaucoup de bonnes choses.
Eh ben, à suivre, alors à suivre, je vais suivre ça, parce que moi, même les sons d'Ibiza, j'aime bien.
Ah ben oui, non, mais voilà. Bah, même ça, c'est vrai que moi, on m'attend pas forcément là-dessus, mais au final, on kiffe tous ce genre de choses.
Mais non, mais pour l'été, comme on disait, il fait chaud, ça fait du bien aussi.
On va pas se flageller tout l'été. Hein.
C'est ça, d'écouter ce genre de son, c'est très bien. Alors, on a parlé beaucoup de ces événements Question Gauche, on a parlé aussi de la fête de la musique, mais la semaine prochaine, gros événement pour toi quand même.
Mars Attack.
Donc comment ça s'est passé? Donc B2B avec Laze.
Ouais, c'est ça. Ben, c'est Mars Attack qui nous ont proposé, ce projet. Nous, ça
à
nous
Question Gauche.
À moi.
Ouais, à toi moi, et à Laze.
À moi et à Laze, ouais, exactement. Donc moi, ça m'a emballé direct. Laze, ça l'a emballé aussi. Ça m'a fait très plaisir aussi. Moi, c'est une date aussi qui me tient à cœur parce que c'est ma première fois à Mars Attack, qui est quand même un pilier, un pilier de la culture, enfin de la culture festival à Marseille, hein, si ce n'est un des festivals les plus importants. Donc ça me fait très plaisir.
Un des plus vieux, en tout cas, qui a réussi à tenir ces 20 dernières années quand même.
Et qui est encore là et qui est encore fort. C'est aussi une occasion pour moi de retrouver Laze, que j'ai plus trop l'occasion de voir, qui habite à Paris et puis qui est très occupé à percer, tout simplement.
Ah ouais, non, mais elle cartonne en ce moment. Elle était à l'Insane Festival le week-end dernier.
Elle était à l'Insane, elle était aux Nuits Sonores.
Et elle était aux Nuits Sonores, et oui, je sais.
On B2B avec Sakusara.
trop forte, quoi. Et en plus, alors je vous conseille pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien Laze, bon, après les Marseillais, on la connaît parce qu'elle était quand même
marseillaise.
Notre
mascotte c'est marseillaise.
Ça. Elle est résidente sur Rins. Et franchement, allez-y. Alors moi,
ils sont excellents, ces
Rins. J'adore. Franchement, moi, j'écoute ça dans la voiture et tout. Je me mets les podcasts là que vous pouvez écouter et même la Rins tout court. Hein, c'est
Rins,
hyper
c'est
bien.
Une très bonne radio, mais je trouve clairement que le podcast de Laze, c'est un des meilleurs podcasts là du moment.
Franchement,
autant ce qu'elle propose que les invités qu'elle amène.
Ouais, c'est top.
Ouais, c'est vrai.
Et donc, c'est une fois par mois. Hein, je crois qu'elle a la résidence pour une émission par mois. Et franchement, je vous la conseille parce que c'est très très qualitatif. C'est du très bon son, elle aussi. Hein, qui fusionne entre plein de genres différents, en fait.
On peut pas la mettre dans une case.
Mais c'est ça qui est
Et je trouve que c'est ça qui est beau avec Lisa, c'est qu'elle continue à faire son trou, à avancer sans jamais se ranger dans une case. Alors, peut-être pour ça que ça a été une sensation moins fulgurante que ce qu'on a pu voir chez certaines personnes. Mm-hmm. Mais par contre, elle perce vraiment avec son art, avec son univers.
Et elle va peut-être un peu plus perdurer.
Et je pense qu'elle sera là pendant longtemps. Vous n'avez pas fini d'entendre parler.
Donc, Laze, avec toi en B2B, comment ça va se passer? C'est vendredi, hein, c'est ça?
C'est vendredi, l'horaire exact, je crois que c'est 21h. Et comment ça va se passer? Mais c'est un peu la surprise pour moi aussi.
Ah, d'accord, ok.
Non, ça va. Enfin, pas tellement que c'est la surprise, mais c'est qu'il y a... Déjà, on n'a pas trop l'occasion de se voir, donc à part savoir au téléphone, discuter un peu, dire voilà, moi j'aime bien ça, j'écoute ça en ce moment, je truc. Le B2B se prépare pas tant que ça derrière des platines. Après, on se connaît très bien, même si ça fait longtemps qu'on n'a pas mixé ensemble. On l'a beaucoup fait il y a quelques années, et puis à chaque fois qu'on s'est retrouvé, même par hasard derrière les platines, on a tout cassé. Donc, je m'inquiète pas là-dessus. Sinon, à mon avis, ça va être une rencontre assez choc au niveau des styles. Même moi, je sais pas trop à quoi m'attendre parce que je sens que tous les deux, on a de la ressource.
Mais ouais,
on a des choses à faire écouter.
Mais c'est que autant elle, on parlait d'elle, mais toi aussi, tu pars dans plein de genres différents.
Et c'est ça qui va être intéressant. Et c'est aussi pour ça qu'on s'apprécie beaucoup avec Lisa, parce qu'on se connaît, depuis longtemps. Nous, elle avait travaillé à Caisson Gauche avant de prendre le blaze vraiment Laze et de s'affirmer en tant qu'artiste. Donc, pour moi, c'est un peu une fierté de la retrouver maintenant vraiment qu'elle a percé et de revenir avec elle. Mais presque là, c'est moi qui me mets au défi de tenir le coup. Quoi. Donc c'est pour ça que c'est aussi, comme je te disais, une date forte pour moi. Et ça risque d'être assez explosif parce qu'elle et moi, on a des univers hyper vastes où on peut vraiment aller chercher des musiques un peu étranges dans des styles un peu méconnus. Et en même temps, on a des univers qui sont pas forcément les mêmes.
Ouais. Ouais.
On c'est pas forcément la même chose qu'on fait, donc j'attends quelque chose d'explosif.
Et comment ça se passe du coup un B2B? Mais ça c'est une vraie question pour tous les B2B. Est-ce que vous le préparez en amont et vous dites ben voilà, moi je vais mettre ça, ou ça se fait vraiment? Parce que moi je l'imaginais comme une bataille, tu vois, de DJ.
Mais c'est un peu comme ça. C'est
Mais sans dire à l'avance ce que tu vas mettre à l'autre.
Jamais.
Tu dis
c'est très,
voilà.
très rare. À part si, mettons, il connaît le son et tu lui dis, ouais, vas-y, ouais, je vais lâcher ça.
Ouais.
Mais donc, comment ça se prépare? On va dire qu'il n'y a pas de règle. Soit si tu vas faire un B2B avec quelqu'un avec qui tu as vraiment l'habitude de mixer parce que c'est ton meilleur ami.
Oui, voilà, du même collectif.
Là, c'est assez naturel, voilà. Ouais. Et sinon, moi aussi, je me demandais comment ça se passait parce que des fois, on voit des B2B un peu inattendus entre tel et tel artiste. D'un coup sur un line-up, en fait c'est les agents, ça passe par les agences, voilà, on leur demande s'ils ont envie de jouer ensemble, tout ça, ou comme par exemple un DJ il va dire, ah ben moi si vous voulez me prendre un B2B, il y a tel artiste, j'aimerais bien faire un B2B avec eux, si nous on les contacte, on peut peut-être faire que ce B2B du coup se réalise, mais après il n'y a pas de règle. Moi par exemple, Lisa, quand on a su qu'on allait le faire, je lui dis, bon mais du coup tu les prépares comment en général tes B2B avec Saku Sahara ou quoi, que... Elle me dit, ben on les prépare pas.
J'ai fait, c'est vraiment, okay. C'est du freestyle quoi.
Vraiment, ben alors de ce qu'elle me dit, elle oui, nous ça va être à peu près comme ça aussi, même si c'est jamais vraiment du total freestyle parce qu'on se parle, on se fait écouter quand même un peu des chansons, on se donne une ligne directrice vers laquelle aller, mais c'est sûr qu'il y a un moment on est dedans et on y va, on enchaîne. Et après comment ça se passe derrière les platines? Ça dépend avec quel DJ on le fait. Des fois, on fait une chanson chacun.
Ouais, c'est
des
ça fois, que je voulais fait... te demander. Est-ce c'est que ça. C'est un track
Ben, ça dépend. Moi, j'ai l'habitude de un track. Ouais. Moi, j'aime bien ce qu'on appelle le ping-pong.
Ouais, voilà, ping-pong.
Bang. Maintenant, ce qui se fait aussi, c'est deux tracks. Ça peut être mieux, par exemple, si c'est avec quelqu'un avec qui on est moins à l'aise
ou
avec quelqu'un avec qui on a moins mixé. Voilà. Ouais. Comme ça, on a chacun le temps d'aller dans un univers. On a un peu le temps, on va dire, de faire une transit, d'amener les gens sur un petit univers pendant deux tracks avant que ça passe à autre chose. Parce que si on n'arrive pas à bien se rencontrer dans le B2B, alors ça fait vraiment un ping-pong, mais on passe noir et blanc.
Et ouais.
Ça peut être un peu moyen, ça.
Et ça, et donc, du coup, comme, je suis curieuse.
Mais ça peut, un B2B, c'est un peu, ça peut être, un B2B, ce qui est génial, c'est que souvent, ça peut en sortir des sets extraordinaires.
Ouais.
Moi, vraiment, je sais que, par exemple, pour d'expérience de mes B2B, j'ai eu certains des B2B, ça a été parmi mes meilleurs sets. Et d'autres, par contre, c'est vraiment beaucoup plus la galère.
C'est galère, ouais.
Tout le long, ça va être galère. Mais je vois, par exemple, là, le B2B qu'elle a fait Laze avec Saku Sahara au Nu Sonore. Bon, j'y étais pas, mais rien qu'en vidéo, j'étais choqué de voir le truc. Ça avait l'air explosif. Et en plus de ce qu'elle me dit, donc, de ce qu'elle m'avait dit avant ça, elles ont pas forcément le temps de le préparer avant. Mais comme quoi, ça peut vraiment donner lieu à des rencontres de fous.
Après,
c'est sûr que si dès le début le courant passe pas, on n'a pas trop la même manière de mixer, d'appréhender le matériel, ou ça peut poser un peu plus des problématiques. Et après, c'est un peu renforcé maintenant avec l'expérience que j'ai eue, pas longtemps, des F2F, ce qu'on appelle, tu vois, face to face. Où du coup on a chacun totalement notre matériel, mais là du coup on peut même plus se parler parce que avec on a chacun deux retours de chaque côté.
Donc
pour que le mec t'entende en face, il faut hurler à gorge déployée, donc c'est pas possible.
Ça c'est la vraie battle, ça. Ça c'est vraiment ça, c'est la vraie l'un battle. Contre l'autre et
ça c'est la vraie battle. Ouais. Malgré tout, on voit quand même sur l'écran ce que le mec a en face.
Ouais.
Mais j'ai préféré l'expérience je préfère l'expérience B2B où on est avec la personne. Ouais. Voilà. Moi honnêtement. Je trouve que face to face, ça a un peu un côté, on va mettre le plus possible de matos sur la table.
Ouais.
Chaque truc coûte 3 000 euros, il y a 9 000 euros de chaque côté.
Ouais.
Et voilà, et on montre et on montre.
Ouais.
Et franchement, c'est pas forcément les meilleurs sets, hein, les F2F, je trouve.
D'accord. Donc, on préfère
après,
les
c'est très perso.
Donc, pour réexpliquer aux auditeurs, B2B, c'est côte à côte, face to face, c'est face à face. Voilà.
B2B, c'est back to back, parce qu'à l'époque, en vinyle, pendant qu'il y en a un qui cherchait le vinyle.
L'autre, il était. Et oui, mais il faut expliquer l'origine. Back to back, de dos à dos.
Ouais.
Parce qu'en fait, ils sont pas vraiment dos à dos. C'est que, comme tu disais, il y en avait un qui était baissé.
Il y en avait un qui était tourné vers les vinyles en cherchant le prochain disque qui allait passer, et l'autre qui lui était tourné vers la table de mix en train de mixer. Donc comme ils étaient deux, ils se faisaient dos à dos tout le temps à chaque track, on appelait ça back to back.
Et donc du coup pendant un B2B aujourd'hui, c'est plus les vinyles comme avant, ma question que j'avais tout à l'heure c'est, est-ce que toi t'as quand même un petit cheminement. Tu te dis, bah, je vais passer cette track, cette track, cette track. Et est-ce que selon ce que la personne à côté a mis, voilà, tu dis, ah putain, viens de mettre ça.
Ah, mais ça non, mais ça, c'est constamment. Ce que constamment. Voilà. MB2B, c'est ça tout le long.
Tu es toujours en train de chercher ce que après, tu vas mettre après.
Tu es toujours en train de chercher ce que tu vas mettre après. Après, tu parles avec la personne, par exemple, si au moment tu sens un truc bien, tu dis, bon, reste un peu sur ce genre de truc-là, parce que moi, j'ai ce qu'il faut derrière et tout. Des fois la personne t'écoute, des fois la personne t'écoute pas.
Des fois, mais quand
c'est vrai que ce qui peut être frustrant, c'est que on a la track parfaite qui va aller après ce truc ou dans la suite là de ce mix, et là d'un coup le mec il t'envoie un truc, il change de style complètement, il change de tempo ou quoi, et là tu te dis bon allez, à moi aussi, je repars à zéro. Donc c'est vrai que B2B c'est un peu plus, faut être un peu plus réactif, faut bien connaître ses tracks. Le mieux c'est de connaître aussi quand même la personne avec qui on mixe. Ouais, pas de secret. Et voilà. Et après, des fois, il y a aussi des erreurs dans les B2B, mais c'est la vie.
Bien sûr. Il y a des erreurs partout, même dans un DJ set normal, d'ailleurs. Mais en fait, j'aime bien ce revival des B2B, parce que comme tu disais, c'était un vieux truc de DJ, ça, les back-to-back avant. On n'en entendait plus parler.
C'est vrai.
Et c'est revenu là depuis quelques années.
Bah,
là,
c'est revenu avec l'essor des collectifs.
C'est ça, exactement. Avec l'essor des collectifs, c'est revenu. Et ce que j'aime, c'est qu'on revient à du vrai DJing qui, hélas, alors je parle pas forcément dans vos soirées, les soirées des collectifs et tout, mais dans les festivals. Ouais. Ça s'était complètement perdu. Dans les gros festivals mainstream, les mecs, ils arrivent avec leur clé USB. Fait, ils font rien. Mais là, on parle des gars, en plus, qui gagnent des dizaines de milliers d'euros.
Ils prennent pas beaucoup de risques parce qu'ils n'ont pas envie de
Mais apparemment, de décevoir. C'est, ce que j'avais entendu la dernière fois, c'est pas qu'une question de qu'ils ne veulent pas prendre de risques, c'est que c'est dans le contrat. C'est parce qu'en fait, ils coûtent tellement cher, des David Guetta et tout ça. Okay. En fait, ils n'ont pas le droit de sortir. Il faut qu'ils envoient le set avant. Ils n'ont pas le droit de sortir.
Mais c'est
de
que
ça.
Les mecs, ils sortent tellement d'argent, ils veulent être sûrs et certains qu'ils vont avoir ce pourquoi ils pensent avoir payé. Quoi.
C'est ça. En gros, c'est ce que j'avais entendu, que ça pouvait être dans les contrats.
Ça ne m'étonnerait pas.
Et en fait, les gars, ils arrivent avec une clé USB et ils font rien. C'est pour ça qu'ils sont toujours les mains en l'air.
Oui. Il y a plein de raisons, mais c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en plus, on va dire, ça va faire croiser des univers de gens desquels on n'attendait pas forcément, comme on a pu voir quand même il y a quelques années avec Fortet, Skrillex Fred Again.
Génial ce.
Qui était un trio de fou, ou des gens comme ça avec des univers un peu différents. Et donc, du coup, logiquement, vu qu'ils sont en B2B, y a une plus grosse part d'impro que quand ils viennent faire leur set tout seuls. Les gens, ils sont aussi peut-être plus ouverts à des digressions par rapport à leur style de prédilection. Et oui, moi je me rappelle, quand j'étais plus jeune, on avait fait une soirée, c'était les plages électro à Cannes, et c'était sur le thème des B2B.
Ouais.
Et il y avait une soirée, il y avait Boys Noize, B2B, Laurent Garnier. Et ça, c'était un sacré set. Ça, c'était un sacré set dont je me souviens encore. Dans la même soirée, il y avait Daniel Avery, B2B et Roll Alcan. Bon, c'était un B2B plus classique.
Ouais, mais quand même.
C'était bon,
cool.
Quoi.
C'était donc, en quelle année?
Ça devait être en 2014, un truc comme ça.
Ouais, j'allais dire, je m'en souviens pas, j'y étais pas, c'est normal, je venais d'accoucher. Donc, fils, il est né en 2014.
C'était l'année où il y avait
un peu le
trip autour de Fantasy Records, des Roll Alcan, Daniel Avery.
Il y avait
encore Trax, de Boys Noize Records. Bon, c'était une autre époque, quoi.
Ouais. Ouais, c'était.
C'était quand je suis tombé dedans. Ouais.
Mais tu vois, à cette époque-là, je me souviens pas tant que ça des B2B. J'ai l'impression que ça revient plus.
Non, mais c'était aujourd'hui. Vraiment juste une soirée. Voilà, un festival qui avait fait. Bah, c'était les plages électro qui avaient fait cette démarche-là et qui était une super démarche. Mais là, je crois qu'il y a. J'ai vu un truc passer il y a pas longtemps, pareil, un festival sur un thème des B2B. Que des B2B.
Ouais. Ah, il faut.
Allez,
si
je le retrouve, je te l'enverrai, ça.
Ouais. On va aller voir ça. Un autre son que tu nous as préparé dans ta petite playlist. Donc, il y a Big Softy, Security, Ed Solo, Acid Dub. Qu'est-ce que tu veux?
Allez, on va.
Moi, j'aime tout.
Allez, Big Softy, Security.
Allez. Pourquoi?
Alors, Big Softy, parce que c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. C'est un duo londonien composé de deux mecs qui s'appellent Hijack et l'autre, j'arriverai pas à le prononcer, SG Caskel, un truc comme ça. Et en gros, c'est vraiment c'est hyper inspiré de toute l'électro des années 2000-2010.
Ouais.
Ok, alors pas ce son-là précisément, ça va être un son d'un peu drum and bass, mais c'est le seul de leur discographie comme ça.
D'accord.
C'est un groupe assez récent, hyper original, qui ravira tous les nostalgiques aussi de cette époque. Et voilà, ça fait un peu machine à tube, moi, je trouve.
Ouais, mais je crois que j'ai déjà passé un son de Big Softy, ça me parle.
Il y en a un qui s'appelle Digital Sex, qui est pas
d'accord,
mal du tout.
Peut-être.
Et Awena Ride aussi, qui est sorti il y a pas longtemps.
Ok, c'est parce qu'en fait, je passe tellement de sons tous les vendredis. Ouais. Et comme j'ai une mémoire de poisson rouge.
Et après, tu as Big Softy, tu as un deuxième groupe anglais. Qui lui vient de Leeds et qui est un groupe de New Wave, mais qui ont fait que deux EP, ils se sont arrêtés en 2022.
D'accord.
C'est très bon aussy.
D'accord, ok. Mais là, c'est Big Softy, donc ce duo de DJ.
Voilà, c'est ça.
Là, on va écouter DJ un titre plus drum and bass, mais ils font, tu as dit
Electro, hyper pop, mais vous allez sentir dans, même dans ce morceau, je pense.
Après, c'est des Anglais, donc c'est forcément bien.
Ouais.
Ça, on le sait. Security de Big Softy, c'est ce qu'on écoute tout de suite. Security.
CTV, thinking that we look so cute on the big screen. Chapstick on my teeth, get me clean up and I'll feel. Straight off the plane, stuck a cat with her jet lag. She's looking round, stuffing bits in her pink bag. Man's wearing shades, trying to get a glimpse of me, mag. Security! Bumming six from a girl with the beach bum. 6'4", but he doesn't like to go down. Lives for the chase, but we shook him off somehow.
Security, I'm talking back with the girls at the front. I'm getting up with anyone that I want. Your boy got the key, you better run, 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 run. Let's go security.
La bombe, ça. J'adore.
Ça m'étonne pas que ça t'ait plu.
Ah ouais, ouais, j'adore. Big Softy, donc avec Security, et ils viennent d'Angleterre.
Voilà.
Évidemment.
Et pour moi, gros coup de cœur que je vous invite à aller voir parce que c'est, ils sortent single par single. Chaque single est vraiment super travaillé, la pochette, le son. Donc moi, à chaque fois qu'il y a une nouvelle sortie, là, je suis comme un enfant. J'attends vite de voir ce que ça va donner. Et même si on retrouve à chaque fois là les codes un peu, les synthés très électro, les trucs comme ça, c'est toujours ils arrivent, enfin ils nous montrent qu'ils nous amènent dans un univers un peu différent, comme là par exemple Drum & Bass.
Ouais, et bien à suivre, vous pouvez écouter ça sur SoundCloud, hein, tout simplement.
Ouais, SoundCloud.
Donc Big Softy sur SoundCloud. On va pas tarder à se quitter, on va passer à un autre son quand même de ta playlist avant.
Ouais.
On récapitule parce que tu nous as dit beaucoup de choses et on n'a pas reparlé du festival.
Ouais. De Luisance Sonore.
Luisance Sonore. Ouais.
Luisance Sonore. Que dire dessus ? Donc c'est fin. C'est fin juin,
fin
je ne me rappelle jamais exactement les dates.
C'est le dernier week-end, je crois.
C'est le dernier week-end de juin. C'est un festival qui est là depuis, ça va être, il me semble, leur 4e édition. Et c'est la première année où ils partent sur un format 2 jours, 3 nuits. C'est vraiment un festival super original qui s'inspire un peu des trucs genre Château Perché ou quoi. Et moi, j'ai été invité l'année dernière, du coup, j'ai adoré. Et ils m'ont réinvité cette année et j'avoue, j'attends que ça, là, d'y partir avec mes potes.
Ouais, c'est le week-end du 27, 28, 29 juin, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Parce que moi, je te dis, j'ai vu plusieurs fois le truc passer dans mon Insta, là, la sponso. Et c'est vrai que ça a l'air vraiment bien. Là, le thème, c'est le chant des étoiles. C'est comme ça que tout s'appelle.
Ça m'étonne pas.
Mais j'adore leur DA et tout, j'adore. Très mystique, très.
Je leur dirai.
Et il y a du beau monde, hein.
Il y a du, bah, y a un peu toute la clique, tous les gens qu'on a envie de retrouver.
Ouais. Et de Marseille. De Marseille, ouais, il y a du beau monde de Marseille aussi.
Et en fait, ça, c'est un festival. Après, moi, je travaille, je vous fais ça totalement gratuit, hein, je travaille pas pour eux.
Je travaille
même pas avec eux, mais je les apprécie beaucoup et j'aime beaucoup le festival.
En fait, c'est un festival
assez modeste, mais où avec une ambiance de dingue et où vraiment, je pense que le sujet principal, c'est le public. Il
n'y
a pas de gros noms, il y a une grosse affiche avec énormément d'artistes, que des artistes talentueux, que des univers très différents. Là, ça va vous changer du festival art techno,
blablabla.
Là, il y a de tout, du dub, du reggae, de la techno, de la psy trance, de... enfin,
ouais.
Ça, il y a vraiment tout ce qu'il faut.
Mais la DA, ça fait très trans, hein.
La DA, ça, bah, parce que
tough,
ça s'inspire de ça.
C'est un peu
l'ambiance qu'on a, camping, machin.
Ouais.
Et en plus, le lieu qu'ils ont trouvé, qui est un véritable tout petit hameau, quoi, avec sa petite place, sa fontaine, son truc. C'est, voilà, c'est passé 3 jours dans un week-end, la petite parenthèse en forêt.
C'est où exactement?
Mais je saurais pas. C'est à 1h30 de Marseille, je crois, parce que là.
Mais c'est dans les Alpes ou en Ardèche? Tu sais,
je crois que c'est plus dans les Alpes.
C'est dans les Alpes. Hein.
Il me semble que c'est plus dans les Alpes qu'en Ardèche.
D'accord.
Mais je t'avoue que la dernière fois, on s'est mis dans la voiture, on a mis le GPS, on y est allé.
Ouais, c'est dans le 05.
Voilà.
C'est dans le 05 dans les Alpes. Non, parce que le même week-end, il y a un autre festival en Ardèche et j'ai confondu les deux. Il y a un autre truc aussi en Ardèche, le même week-end, pareil, dans la nature, comme ça. Mais ouais, il y a par exemple, je vois dans la liste là, bon, il y a plein de noms qu'on connaît pas forcément en plus, mais beaucoup de noms marseillais. Et il y a un mec que j'aime beaucoup dans la liste, c'est Odd Wave.
Oui,
moi j'aime beaucoup, il fait du live un peu progressif. Moi c'est un peu la techno que j'aime, qui rappelle.
Pour moi c'était plus psytrance, ça devait être quelque chose.
Ouais,
pas le même.
Mais non, c'est le même. En fait il fait des lives, ouais, ça peut.
Ah oui, non, mais c'est vrai qu'il avait joué à Walking Bass, il avait fait le live techno.
Et franchement j'avais adoré.
C'est vrai.
Non, moi j'aime beaucoup ce genre de producteur, justement,
qui a plus rien à prouver, hein, franchement,
ça.
Lui.
C'est ça, non, j'aime beaucoup. Bah, justement, à la Walking Bass, moi, j'avais préféré rester dans cette salle, tu vois, que regarder la scène hardcore. J'en peux plus, je vous jure. Non, mais c'est vrai, ils sont très talentueux. Donc, toi, tu joueras quel soir?
Moi, je joue le deuxième soir à minuit, donc le 28.
C'est en même temps que au Large Festival, ici à Marseille.
Ah.
Bon, après, c'est pas vraiment une concurrence, parce que c'est pas techno, mais il y a des beaux noms. Il y a Rebecca Warrior et Vitalik. Compromat. Compromat, okay. Voilà. Okay. D'un coup, ça m'est revenu. Compromat, O2N.
J'adore.
Et ouais, ils vont sortir un nouvel album là.
Ouais.
Et justement, on verra le nouvel album pour le Au Large Festival. Donc, ça sera à Marseille en même temps. Mais pour ceux qui aiment la techno et tous les genres de musique électronique.
Pour ceux qui ont envie de venir passer un week-end de hippie tranquille dans la forêt.
Ouais. Parce qu'il y a un camping.
Parce qu'il y a de toute façon, c'est que sur camping, hein, parce que le machin est. Perdu dans la forêt, il n'y a plus de réseau, plus rien. Donc
c'est
en fait, il n'y a plus de réseau. Là, c'est pas de réseau pendant 3 jours.
Ouais.
C'est ça aussi un peu qui est bien. Il y a de la bonne bouffe, il y a un peu tous les gens qu'on connaît parce qu'on se retrouve tous là-bas. Et voilà. En tout cas, moi, vous pouvez me retrouver là-bas.
Esprit plus free party, en fait.
Esprit plus free party.
Ouais. Ça me fait penser un peu, je ne sais pas si tu connais cet événement qui est génial. Et là, s'ils n'ont pas pu le faire cette année, c'est le son libre.
Oui.
C'est trop bien.
Alors, j'y suis jamais allé.
J'y travaillais ces dernières années. Tous les ans, j'y ai bossé. Alors déjà, d'y bosser, c'est hyper cool parce que c'est une chouette équipe. Et c'est un peu la même, le même esprit, on va dire.
Même
sauf
vibe.
Que c'est plus gros, hein, parce que ils ont des scènes énormes.
Le son libre, c'est un énorme festival qui existe depuis des années.
Mais
ça.
Pourtant, c'est des collectifs, c'était des sound system de free party. Hein,
qui ont juste évolué.
Qui ont évolué, qui ont fait leur son libre. Et hélas, cette année, ils n'ont pas eu le terrain. Il y a eu des soucis au niveau
de... Ça, il y a de plus en plus de problèmes. Et tu avais réagi à ma story tout à l'heure qui disait qu'il y avait 44 festivals qui n'avaient pas pu avoir lieu cet été.
C'est ça.
Pour des raisons de hausse de coûts, mais bon, surtout de hausse de coûts décachés.
Non, mais c'est ça c'est un vrai sujet. C'est vrai que ça fait quelques années qu'on en parle, notamment dans cette émission. Et moi, je me souviens d'un manifeste qui était sorti il y a 2 ou 3 ans, où plusieurs directeurs et programmateurs de festivals avaient écrit, c'était sorti sur Libé et tout, et ils avaient écrit sur le sujet en disant que, en fait, c'est plus possible, ils pourront plus suivre les coûts de certains artistes, notamment américains. Ils demandent 1 million de dollars une prestation, quoi.
Et même quand on est dans des prix moindres, c'est déjà trop. Et même s'il n'y a pas que ça qui augmente dans l'organisation des festivals, parce qu'il y a plein de choses qui augmentent, il y a plein de nouvelles normes qui sortent,
c'est ça.
Plein d'obligations, des trucs spécifiques à des lieux. Donc on va pas se cacher, il y a pas que ça qui coûte ouais. cher dans un festival. Et même moi, ça me fait, j'ai pas envie de me mettre à être celui qui va taper sur les artistes en disant oui, on vous paye trop cher, on vous paye truc.
Mais là, par exemple, ça dépend qui.
Ouais, voilà. Et quand même, globalement, c'est devenu trop cher. Moi, là, je dois en booker, je sais pas combien là. Entre les festivals auxquels j'ai participé, là, tout ce que je mets en place cet été, et ça devient indécent pour certains, ce qu'ils demandent, quoi. Ouais. Et il faut pas s'attendre à ce qu'on... Enfin, on peut pas continuer à faire de la déco, un bon accueil du public, machin, et toujours ajouter 10 000 euros de plus dans les artistes,
ouais.
quoi.
Ouais, ouais,
pour
ouais.
venir mixer une heure...
Avec une clé USB.
Après, on le fait, hein. on le fait parce qu'il faut ouais. bien, il faut bien remplir, il faut bien faire ouais. venir les gens, mais je pense que ce modèle-là, il a une limite, à mon
avis. Ouais. Mais on y est, je pense, on y est dans la
vie. Je pense qu'on commence à y arriver.
Et,
ouais.
et après, c'est pas mal aussi, ces gens-là, des artistes qui se basent par rapport à leur nombre de followers sur les réseaux sociaux. Et donc, ils peuvent se permettre de mettre un prix très large.
Le truc,
parce que
c'est que c'est devenu un peu comme ça,
followers.
C'est ça. Et puis, il y a aussi un autre problème. Bon, là, je vais peut-être pas me faire que des amis. C'est le truc que les prix des DJ augmentent. Du coup, le prix des bookers aussi augmente. Alors que le booker, lui, va pas me fournir plus de travail.
C'est ça.
Et qu'en plus, je dirais qu'honnêtement, avec les réseaux aujourd'hui, le travail du booker, c'est plus le même que celui d'avant. Ouais. Moi, quand je veux booker quelqu'un, je vais voir sur les réseaux. Il y a écrit où c'est que je peux le contacter. Je peux le contacter même directement sur Instagram.
C'est ça. Ouais.
Donc, il y a plus forcément toute cette démarche de venir me présenter tout le roster, tout le truc. Ce travail en amont, il est fait par nous. Mais par contre, pour des artistes chers, eh ben, 20%, c'est toujours de plus en plus cher. Et ça va être une somme toujours plus en plus grosse qu'on ajoute. Enfin, après, voilà, c'est normal et je suis content que maintenant, il y ait de plus en plus de gens qui arrivent à vivre de ça, moi aussi, machin, mais à un moment, il faut redescendre un peu sur terre aussi.
Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est une discussion qu'on a depuis quelques années et là, on voit que ça a atteint, atteint des sommets quand même.
C'est vrai qu'il y avait eu un article, je m'en rappelle,
il y a trois ans.
Et c'est vrai parce que c'est difficile de le dire aussi, parce qu'on a envie d'être plutôt rangé du côté des artistes.
Bien sûr,
voilà,
bien sûr.
Les gens qui bossent, puis on entend tout le temps dire, voilà, s'il n'y avait pas les artistes, il n'y aurait pas de musique, tout ça. Mais bon, nous aussi, pareil, s'il n'y avait pas de festival, est-ce qu'il y aurait une scène pour les artistes?
Et ouais, voilà. les deux ont besoin chacun de l'autre. Quoi.
C'est voilà.
Un truc, ouais. et cet article-là que tu partageais dans ta story disait 44. Hein, 44
il disait
festivals
44 festivals. Alors, c'était pas l'article n'était pas complet dans ce que j'ai partagé.
Ouais.
Bon, je n'ai pas les noms des 44, mais ça ne m'étonne pas.
Ouais.
Ça ne m'étonne pas, comme tu disais, le son libre, par exemple. Et ajoute à ça le fait que, concrètement, moi, je n'ai pas l'impression qu'en France, même si on nous dit que oui, il n'y a pas un vrai... une vraie ouverture vers l'électro, une vraie engagement vers ce genre de choses. Ok, c'est de plus en plus célèbre, mais j'ai pas l'impression que les choses s'améliorent.
Mais en tout cas, ce qu'on voit depuis cette année, alors depuis quelques années, mais en tout cas ces derniers mois, c'est une répression énorme envers la culture techno et la free party. On n'avait jamais eu autant de répression
alors,
en fait qu'aujourd'hui.
Doit, sur la free party, ça, je connais moins, mais ça devrait encore plus.
C'est un truc de fou là.
Et c'est pas normal parce que pourtant on a une scène qui explose, on a des artistes français qui explosent. Serait-ce que dans l'art techno, Trim, Nico Moreno, machin, des artistes comme ça, ça commence à peser, c'est un rayonnement international. Que ce soit vos artistes préférés ou pas, ça a un point. Et c'est normal, c'est dommage de brider ça.
Ouais.
C'est dommage de brider tout ça, de brider là, toute cette culture. Moi, j'avoue que je comprends pas quand je vois comment ça se passe dans certains pays. Je me dis, nous, on devrait plutôt l'embrasser, l'encadrer, mais l'embrasser aussi.
Et être fier de ça, parce que ça fait partie de la culture française moderne, actuelle, on va dire.
À l'époque, on était fiers des Daft Punk. Il faut en refaire des nouveaux Daft Punk. Quoi.
C'est ça. On pourrait continuer cette discussion très longtemps, mais il y a une émission après, Kixa, qui sont déjà presque prêtes. Juste avant de se quitter, on va passer à un autre son que tu as choisi. Ça nous permettra de faire la transition avec l'autre émission, mais on va répéter tout ce que tu nous as dit en début d'émission.
Je vous fais le calendrier.
Allez, calendrier.
Donc, du coup, les hostilités commencent la semaine prochaine avec, vous pouvez me retrouver en B2B avec Laze le 13 juin à Mars Attack. Ensuite, vous pouvez me retrouver à Mondéniasqué pour le lancement de la saison le 23 juin sur le rooftop du Prado. on sera aussi présent le 21 juin à la fête de la musique. Et à partir du 7 juillet, c'est le lancement de notre plus gros événement qu'on a jamais organisé, Summer Act Festival, avec l'acte 1 le 7 juillet.
Voilà, ça va être énorme.
Au rooftop R2.
Au rooftop R2, donc beaucoup de rooftop, ça va être cool, on
full
va prendre
rooftop,
l'air.
Cet été, putain j'ai hâte que ça commence.
moi aussi, j'ai bien envie, le petit rooftop, tu me l'as bien vendu là, celui du Prado. Là.
Moi je prends pas le soleil pour l'instant, il faut que ça commence.
on est blanc comme des... c'est clair. Donc on va se quitter, et de toute façon on va en parler chaque vendredi dans l'émission. Bon moi l'émission au bout d'un moment elle va s'arrêter, hein. Je vais partir en vacances, mais en tout cas jusqu'au moins 20 juillet je suis là.
Ouais.
Et après... vous vous débrouillez.
Non, mais ça, ça va, on va s'en sortir.
Voilà, mais on annoncera chaque vendredi à chaque fois les line-up de.
Ah, ben je te les fournirai.
Ça va, super. Tu vas écouter quoi pour se dire au revoir du
mais
coup?
Je pense qu'on va partir sur Ed Solo, Acid Dub. Riordan, c'est dommage, vous irez écouter vous la version two-step de son truc. Et là, Ed Solo, Acid Dub, donc Ed Solo, on ne le présente plus, une des figures emblématiques de la jungle drum and bass en Angleterre, le patron de Jungle Cake Record avec Decline, qu'ils ont créé en 2009, quelque chose comme ça. Cette track, c'est une track que j'ai découvert il y a pas longtemps, mais qui me tient à cœur parce qu'elle me fait replonger en enfance un peu, ça me fait penser à comme si j'étais en train de jouer à Crash Bandicoot ou que j'étais là PES ou je ne sais quoi. Donc la track c'est Ed Solo Acid Dub, c'est hyper root, vous allez kiffer. Ouais, c'est good vibes à mort.
Elle est cool cette track, je l'ai déjà
passée. Ah, tu la connais?
Ouais, je l'ai déjà diffusée ici. Ed Solo, je le diffuse. Dans cette émission de temps en temps. De temps en temps, petite pointe. Juste je rappelle Bicep ce soir au Bon Air là. Parce que
oui, quand même, voilà.
Bicep ce soir.
Ouais, pas que Bicep, il y a une autre, il y a d'autres bons artistes.
Et t'as reparlé de Mars Attack?
Mars Attack la semaine prochaine, le 13 juin, en B2B avec Laze. Et il y aura aussi Brutalismus 3000, Ota, Serakine.
Ouais, moi, Brutalismus, même si j'arrive jamais à dire.
J'ai jamais vu, vraiment.
Je les adore. Eux aussi font partie de ma programmation. J'adore ce
C'est du très, 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 très bon.
Ouais, non, c'est cool. Donc ça va être cool, on en reparlera vendredi prochain. Là, on se quitte avec Ed Solo, Acid Dub. Merci beaucoup, Kepler, d'être venu dans l'émission.
Merci à toi de m'avoir
invité. Et à très vite sur le 88.4 FM. Et vous pouvez nous retrouver sur radiogalère.org pour écouter les podcasts des anciennes émissions et sur les réseaux sociaux, parce qu'il n'y a personne qui me suit sur les réseaux, ça m'énerve.
Allez sur les réseaux.
Mais les gens qui écoutent Radio Galère, ils ne veulent pas suivre sur les réseaux. Allez, très bonne émission. On laisse la place à Kixa.